Bonjour, c'est Laurent Marsic, chroniqueur jeunesse dans Laissez-vous tenter. Voici l'histoire d'un cheval, mais pas n'importe quel cheval. On l'appelait « Cheval vêtu », c'est le titre de cet album tiré de la grande bibliothèque Albin Michel Jeunesse, sous la plume et les dessins de Fred Bernard et François Roca, l'histoire est lue par Charles Ham, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque Longchamp de Neuilly-sur-Seine. Voici la dernière partie de l'histoire.
Cheval sacré était toujours tenu à l'écart, près de la tente de Grand Corbeau. Il était l'objet de soins particuliers et attendait son heure, furieux de voir Cheval vêtu accepté si facilement par son propre troupeau. Grand Corbeau et ses conseillers décidèrent de lancer une grande attaque contre les Paonies. Il s'agissait de redorer le blason du chef, de reprendre des chevaux et d'exhiber Cheval vêtu devant l'ennemi. Il fallut 4 jours pour s'accorder sur un plan d'attaque. Enfin, les guerriers prirent les armes et saluèrent leurs femmes. Des peintures de guerre barraient leurs visages. Les chevaux portaient des dessins magiques. Ils prirent le sentier de la guerre, Cheval vêtu et Grand Corbeau en tête. La grande épée d'Ignacio Garcia Sabato levée à bout de bras, défiant le ciel. Pour la première fois, Cheval sacré ne partait pas en guerre avec le chef et restait au camp. Pour le cheval espagnol, batailler aux côtés des Comanches ne changeait rien à l'affaire. Il allait falloir, une fois de plus, se battre contre des Indiens. Cheval vêtu connut de nouveau le vertige de la guerre, les cris, la vitesse, la violence. Mais ici, la priorité n'était pas de tuer. Il s'agissait surtout de porter des coups, marquer des points, voler les chevaux. Un Comanche touchait un guerrier Paoni avec son bâton de combat, et c'était un exploit. Il enlevait une jeune femme, une prouesse. Il volait un bel étalon, une victoire. Tout le monde fuyait devant Grand Corbeau, devant le cheval d'acier, devant la grande épée. Personne n'avait jamais vu pareille arme de guerre. Le chef frappait du plat de l'épée sur la tête et les épaules des guerriers Paonis avec assurance. Les enfants hurlaient. Les femmes et les hommes, surpris par la rapidité de l'assaut, se défendaient comme ils pouvaient. 3 Paonis ne se relevèrent pas. Un Comanche tomba. Une douzaine de chevaux furent pris. Les Comanches regagnèrent leur campement dans l'exaltation, remerciant les esprits et criant leur victoire. On fêta leur retour dans l'allégresse. On entonna des chants. On organisa des danses rituelles autour des feux. On loua avec fierté les mérites de Grand Corbeau. Cheval sacré était fou de rage et tirait à tout rompre sur sa longe. On déposa le Comanche mort au combat sur une plateforme funéraire dans ses plus beaux habits, avec sa lance et son bouclier. Sa femme se coupa les cheveux et un doigt en signe de deuil. Désormais, son mari ne pourrait plus subvenir à ses besoins. Elle devait se marier avec l'époux de l'une de ses sœurs lors d'un rituel qui rassemblerait toute la tribu. Cheval vêtu en profita pour s'échapper de son enclos et rejoindre 3 Myrtilles. Dès lors, il ne songea plus qu'à fuir, les Indiens comme les Espagnols, et recouvrer sa liberté. Mais à chaque tentative d'évasion, les rapides mustangs et leurs cavaliers le rattrapaient. En revanche, on le laissait approcher 3 Myrtilles, puisqu'elle était grosse. Par une nuit de pleine lune, un cavalier surexcité débarqua en trombe. Il parla avec fébrilité. Aussitôt, Grand Corbeau sella Cheval vêtu et suivit le cavalier avec une dizaine d'autres guerriers. 2 heures plus tard, perché sur une colline, ils purent apercevoir des bisons à perte de vue sur la plaine. Sous les étoiles brillantes, ils étaient comme des milliers et des milliers de grosses mouches noires dévorant la prairie. À la vue de ce spectacle, Cheval vêtu sentit un frisson parcourir son échine, de la tête à la queue. De toute sa vie de voyageur, il n'avait jamais vu autant de bêtes à cornes. Les Comanches étaient ravis. Ils eurent une pensée émue pour leur père, qui ne connaissait pas le cheval et chassait à pied. Ils repartirent aussi discrètement qu'ils étaient venus, laissant les bisons à leur lente migration. Dès l'aube, la tribu commença de plier bagages. Les hommes exultaient, les chevaux trépignaient pendant que les femmes et les enfants chargeaient les travois. Quand le village eut entièrement disparu et que tous furent prêts, Grand Corbeau donna le signal et la longue colonne s'ébranla joyeusement. De la poussière plein les yeux, les naseaux et la bouche, Cheval vêtu soufflait comme une forge. Un feu terrible brûlait dans son poitrail, un vent furieux sifflait sous ses sabots. Cette fois, Cheval Sacré était de la partie, monté par Vieil Ours. Après s'être lentement rapproché, les cavaliers avaient bondi sur les bêtes à cornes affolées. Mais Cheval Vêtu ne voulait pas y aller, il avait résisté. Grand Corbeau s'était fâché, il avait crié fort, l'avait frappé. Cheval Vêtu avait cédé. Un tremblement de terre agitait la formidable cavalcade. Trois myrtilles filaient à quelque distance de là, tentant avec son cavalier d'isoler un groupe de bisons du reste du troupeau. Les chevaux étaient perdus au beau milieu d'une mer de fourrure bondissante. Arc au poing, les chasseurs hurlaient sur les bisons et leurs montures. Les premières bêtes tombèrent, criblées de flèches, au cou, à la tête, au ventre. Le claquement des sabots et le souffle court des bisons terrorisés éclataient aux oreilles des chevaux. Dans l'inextricable confusion, Cheval Vêtu respirait violemment l'odeur de la terre retournée, de l'herbe broyée, de la peur, de la sueur, du sang. Il avait du mal à tenir la distance. Il était bousculé par les mères protégeant leurs petits. Chargé par les gros mâles, il trébuchait sur les reliefs de terrain, se rattrapant in extremis dans les courbes. Abasourdi par les beuglements, il obéissait aveuglement à Grand Corbeau qui le pressait de la voix et des talons, comme un cheval sans tête. Tout à coup, un hennissement de douleur noyé dans les mugissements. Cheval Vêtu aperçut trois myrtilles en difficulté dans la multitude ronflante et grondante. Il fit un bond. Les quatre fers quittèrent le sol, manquant de désarçonner Grand Corbeau. Le cheval espagnol se cabrait, soudainement revenu au centre d'une arène si blanche, si réelle qu'elle lui faisait mal aux yeux. Une vieille terreur nichée dans ses entrailles explosa d'un seul coup. Une foule en liesse troublait sa vue. Leurs cris de colère, les ordres hurlés, les reproches éructés remplirent ses oreilles. Il ne vit plus que les cornes acérées, des capes colorées, la pique du picador, l'hameçon des banderilles, la moulette écarlate, l'épée du matador. Cheval Vêtu vit l'effroi dans les yeux de trois myrtilles qui perdaient l'équilibre. Il s'élança vers elles, contre la volonté de Grand Corbeau. Tête baissée, tendue à mort, comme mue par un ressort, les yeux clos, il tenait son cap. Cheval Vêtu cognait dans les chairs, chargeait l'adversaire dans sa cuirasse de fer. Rien ne pouvait l'arrêter, ni les sabots, ni les cornes, ni les fronts, ni les flancs, ni les épaules. Son corps était blanchi par l'écume, son sang bouillonnait dans ses veines. Sa poitrine gonflée lui faisait mal. Il lui semblait qu'elle allait éclater quand il vit trois myrtilles juste devant lui. Au prix d'un effort colossal, épaule contre épaule, il la poussa enfin hors du danger. Grand Corbeau, hilar et soulagé, remerciait les esprits de lui avoir envoyé un cheval aussi courageux. Cheval Vêtu venait de sauver la vie de trois myrtilles, mais celle de son cavalier aussi sûrement. Le cheval espagnol reprenait son souffle et ses esprits quand Cheval Sacré fondit brutalement sur lui, par derrière, sabot en avant. Grand Corbeau dégringola de la selle et roula dans l'herbe piétinée. Vieil Ours, désarçonné lui aussi, hurlait au loin sans qu'on puisse l'entendre. Cheval Sacré prit Cheval Vêtu à la gorge. Cheval Vêtu se cabra pour se défaire de la morsure. Cheval Sacré lâcha prise pour se retourner d'un bond et décocher une violente ruade dans le ventre de son rival. Cheval Vêtu s'effondra et vit Cheval Sacré, ivre de fureur, se dresser au-dessus de lui pour s'abattre de tout son poids sur sa tête. Il se dégagea vivement et, toujours couché sur le flanc, lança ses sabots postérieurs contre les jambes de Cheval Sacré alors qu'elle frappait le sol. Les os craquèrent et les jambes se plièrent sous les talons qui s'écrasa dans un cri. Un cri qui glaça le sang de Vieil Ours et de Grand Corbeau pétrifié. Cheval Vêtu projeta une seconde fois ses deux sabots, concentrant ses dernières forces sur le cou de Cheval Sacré, désormais incapable de se relever. Un claquement sec annonça au chef et au sorcier la fin de Cheval Sacré. La chasse était terminée. Les femmes et les enfants arrivaient sur le champ de bataille. Une grande émotion emplissait toute la tribu. Chacun disait sa joie en dépeçant les bisons tués. Les peaux étaient découpées pour être tannées, la viande pour être conservée. On but le sang chaud, on dégusta cru la langue, la cervelle, le foie, les rognons, les yeux. Cheval Vêtu, débarrassé de sa cuirasse de guerre, récupérait un peu à l'écart lançant des regards fatigués sur ces hommes et ces femmes joyeusement affairés à manger des bisons morts. Trois myrtilles s'approcha de lui et lécha doucement ses plaies. Perdre Cheval Sacré était un grand malheur. Vieil Ours avait vu juste et disait sa colère. Mais il était aussi impressionné par cet étalon noir, si fort et si brave. Le conseil, regroupé autour du corps de Cheval Sacré, devait décider du sort du vainqueur. Ce matin-là, personne ne songea à rattraper Cheval Vêtu quand il s'éloigna du campement pour la dernière fois. Seule la jeune jument trotta à sa suite, balançant son ventre rond sur la grande plaine. Ce matin-là, une gigantesque main invisible semblait caresser la prairie, comme une profonde fourrure. Le vent du sud s'était levé et emportait Cheval Vêtu et trois myrtilles.
Ainsi se termine Cheval Vêtu, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse, sous la plume et les dessins de Fred Bernard et François Roca. L'histoire est élue par Charles Ham, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque Longchamp de Neuilly-sur-Seine. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. À bientôt pour une nouvelle histoire.